France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 spécial, un 13-14 des enfants. À l'occasion du lancement de la radio Mon Petit France Inter, ce 13-14 ouvre ses portes aux plus jeunes, ici, en public, mais aussi au 01 45 24 7000. Appelez-nous, venez nous dire ce qui vous rend heureux dans la vie, vous les enfants. Le chanteur Gauvin Cerce sera là dans une demi-heure pour échanger avec vous. Dans l'actualité de ce mercredi, les conséquences des choix économiques du gouvernement, c'est un peu plus sérieux, ça va concerner les générations 64-65 qui vont partir en retraite plus tôt. Ça concerne aussi les envois de petits colis taxés à 2 euros et ça concerne aussi les impôts. Nous verrons qui va gagner et qui va perdre. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Alors que les socialistes ont décidé de laisser vivre le gouvernement.
Une décision quasi unanime assure le patron du PS, Olivier Faure, qui cherche de nouvelles garanties pour être sûr que la suspension de la réforme des retraites sera bien votée au Parlement.
A tout de suite pour vos précisions. À suivre encore une conversation sexuelle avec l'intelligence artificielle, ce sera bientôt possible avec ChatGPT, la police des polices aux prises avec la corruption et puis la déforestation au Brésil. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Des élevages clandestins sont en cause.
Oui, une ONG a mené une enquête sur des ranchs illégaux au Brésil et conclu que leur viande peut potentiellement finir dans nos assiettes.
On va vous retrouver dans une vingtaine de minutes, sans oublier les sorties cinéma de ce mercredi. Ce sera avec Alexis de Meyer et là encore, il y en aura pour les enfants.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer 7 heures avec nous.
France Inter.
Il y a quelques jours, le patron de l'entreprise Meta demandait à ses salariés d'utiliser davantage encore l'intelligence artificielle au boulot. Je ne suis pas sûr qu'il pensait à l'usage dont nous allons parler maintenant. À partir de décembre, l'IA la plus utilisée au monde, ChatGPT, va proposer des conversations érotique à ses utilisateurs. Le patron d'OpenAI, Sam Altman, l'a annoncé la nuit dernière. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Jérôme.
Jusqu'à maintenant, ça n'était pas possible.
Alors jusqu'à maintenant, j'ai fait le test ce matin, ça donnait ça. Bonjour ChatGPT, est-ce que tu pourrais me raconter une histoire érotique ?
Je suis là pour discuter de plein de sujets, mais je préfère garder nos échanges appropriés et respectueux.
Pas de consentement donc pour ChatGPT, il faudra attendre le mois de décembre. Mais d'autres IA sont moins pudiques, par exemple Grok, l'IA d'Elon Musk. Salut Grok, pourrais-tu me raconter une histoire érotique ?
Bien sûr, laisse-moi commencer doucement. Dans une vieille maison au bord d'une rivière, elle attendait. Un feu crépitait, lui arriva enfin, manteau trempé, regard lourd.
Le feu crépite, le regard est lourd, vous l'entendez, Grok installe une ambiance avant d'aller un peu plus loin.
Leurs lèvres se cherchèrent, comme des secrets mal gardés. Et puis, plus rien n'existait, sauf leur souffle, leurs mains qui glissaient sous les tissus.
Ensuite, Grok nous demande si on veut des descriptions plus intimes, et si on dit oui, on passe aux choses sérieuses devant le feu qui crépite. Je m'arrête là, C'est la journée des enfants sur France Inter.
Ça pose évidemment, Stéphane, la question de la vérification de l'âge des utilisateurs.
Oui, et c'est justement parce que ChatGPT vient de mettre en place un contrôle parental pour les 13-18 ans que Sam Altman veut, je le cite, traiter les adultes comme des adultes avec cette option discussion érotique.
Tout cela, c'est pour augmenter encore le trafic ?
Eh oui, vous maintenir captif sur ces plateformes, c'est l'objectif de toutes ces IA et du numérique en général. Selon une large étude portant sur 100 000 conversations avec des chatbots IA, les requêtes érotiques, ce serait 10% des demandes. Si vous prenez le web en général, le porno, c'est une requête sur 4.
Une sur 4.
Dernier chiffre pour finir, le porno, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre du secteur numérique. L'annonce du jour ne va pas améliorer la situation.
Merci Stéphane Jourdain, tout cela expliqué avec des mots choisis devant les oreilles des enfants. Venons-en aux changements concrets qui s'annoncent pour vous après les annonces du Premier ministre. Hier, dans sa déclaration de politique générale, on peut maintenant s'intéresser au fond puisqu'il semble, ce Premier ministre, pouvoir passer l'obstacle de la censure. On va y venir dans un instant. Sébastien Lecornu a notamment acté la suspension de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028. Je à 62 ans et 9 mois pour l'âge légal, 170 trimestres pour un départ à taux plein. Alors sont concernées les personnes nées en 1964 et 65, elles vont gagner entre 3 et 6 mois. C'est le cas d'Alain, avec qui vous vous êtes entretenu ce matin, Mathieu Bonnour.
Ce fonctionnaire né en 1965, travaille depuis l'âge de 20 ans, carrière longue selon l'ancien modèle de la retraite, avec des métiers difficiles, de la chaudronnerie, puis maintenant au service courrier et reprographie dans une collectivité territoriale de la Vienne. Il vient de déposer son dossier pour partir en mai prochain.
Je devrais déjà être à la retraite. C'est une frustration parce qu'on se dit, bon, 9 mois de plus, bon, bah, on finit par l'accepter parce que bon, c'est comme ça. Et là, du coup, aujourd'hui, bah, on est un peu perdu parce qu'on ne sait plus, est-ce que finalement, on revient comme avant. Donc, je devrais déjà être à la retraite alors que je travaille encore. C'est très perturbant.
Lui qui avait manifesté à l'époque contre la réforme se dit un peu désabusé devant tous ces changements, des véritables montagnes russes émotionnelles.
Il y a un moment où vous avez travaillé pendant X années, depuis avant 20 ans que vous travaillez, vous avez 60 ans et vous avez envie de repos et d'être, vous êtes un peu, vous êtes fatigué et vous avez envie d'arrêter, quoi. Et on vous dit, ben non, va falloir travailler plus. Donc c'est dur, c'est très dur.
Pour l'instant, Alain reste prudent. Rien n'est acté, c'est seulement une proposition de suspendre cette réforme.
Si ça passe là, ce qu'ils veulent faire là, j'aurais travaillé plus longtemps que ce que j'aurais dû. Qu'est-ce que ça change pour moi ? On est dans le doute tout le temps, sans savoir comment ça va se passer.
Eh bien, si la réforme des retraites est suspendue, Jérôme, et que comme Alain, vous avez des mois travaillés en trop par rapport à votre date de départ, normalement, vous allez pouvoir bénéficier d'une surcote, c'est-à-dire une meilleure pension pour votre retraite.
Merci Mathieu Bonnour. Je voudrais qu'on entre maintenant dans le détail du projet de loi de finances tel qu'imaginé par le Premier ministre. Même s'il l'a dit à plusieurs reprises hier, les parlementaires auront tout loisir de le modifier. Parmi les nouvelles taxes, une taxe sur les petits colis. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
2 euros par colis envoyé. Qui va la payer ?
Alors, c'est encore assez flou à ce stade, Jérôme. Est-ce que ce sera le consommateur au moment de sa commande ou bien les plateformes comme Shein, comme Temu ? Les services de Bercy ne sont eux-mêmes pas très au clair sur le sujet. On pose un principe, on lance l'idée. Ce sera justement, vous le disiez, aux parlementaires d'en débattre, nous dit-on, le ministère, où l'on précise que l'objectif in fine n'est pas de créer une nouvelle taxe qui fasse perdre du pouvoir d'achat aux Français. Bien sûr, Jérôme, on ne va pas se mentir, ça peut remplir les caisses, mais derrière, l'idée maîtresse reste de réguler, nous dit-on là encore, un marché du colis devenu complètement fou, ces petits paquets venus de l'étranger qui inondent le territoire français en un an. Un an seulement, leur nombre a tout simplement doublé de 400 à 800 millions des colis remplis en très grande partie de produits de contrefaçon, défectueux ou mauvais sanitairement et qu'il faut bien contrôler un minimum. Or, rappelle Bercy, en un an, les effectifs douaniers, eux, n'ont pas doublé. Des moyens sont nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission et ces 2 euros doivent aussi y contribuer.
14 milliards d'euros de nouvelles rentrées fiscales, c'est ce que nous dit le Haut Conseil des finances publiques qui a fait son calcul. Les prélèvements obligatoires vont donc augmenter, dont les impôts. Bonjour Mathilde Himy.
Bonjour Jérôme.
Qui va payer plus si on en reste là ?
Alors déjà un point sur le mécanisme. D'habitude, les tranches d'impôts sont augmentées en fonction de l'inflation. Ce sera 1,1% l'an prochain. Et comme ça, tous ceux dont le revenu est lui aussi indexé sur l'inflation ne sont pas lésés. Chacun avance en somme d'une case. Là, on gèle tout. Premier effet, des foyers qui ne payaient pas d'impôts vont devoir s'en acquitter. Ce sont ceux qui étaient déjà à la limite des 11 000 euros déclarés pour entrer dans la première tranche. Alors Bercy disait hier que 200 000 foyers étaient concernés, mais Bercy nous dit ce matin que le chiffre est finalement toujours en cours de modélisation. Ensuite, on a ceux qui paient déjà des impôts, 18 millions de foyers. Le gel va faire progresser tout le monde à l'intérieur des tranches, mais seuls ceux qui basculent dans une autre tranche vont payer. Lola Josserand est économiste à l'Institut des politiques publiques.
Certaines personnes vont du coup passer dans une tranche supérieure pour une certaine partie de leurs revenus. Donc, par exemple, un foyer qui n'était pas imposable et qui le devient, il sera imposable toujours que sur la partie de son revenu qui dépasse ce seuil. Donc ce ne sera pas sur tout son revenu.
Bercy compte ainsi récupérer en tout près de 2 milliards d'euros.
Il y a aussi des gagnants, Mathilde.
Oui, alors gagnants pas vraiment, mais ceux qui ont perdu du salaire par définition ne seront pas concernés. Au-delà du revenu, Jérôme, cette désindexation est loin d'être neutre pour tous, car le revenu fiscal de référence donné par les impôts permet ensuite à de nombreuses personnes de déclencher des aides ou des prestations, et certaines pourraient ainsi être lésées.
Mathilde Dehimy, tout cela pour contenir le déficit public à 4,7% l'an prochain. C'est l'objectif du gouvernement. Ces choix, pour l'instant, ne sont pas censurés donc par le Parti Socialiste. Les 2 motions de censure, celle du RN et celle des Insoumis, seront déposées demain matin à 9h. Le vote prévu à la mi-journée. Sonia Gobry, on vous retrouve. trouve, à ce stade, les socialistes sont-ils tous d'accord ?
Eh bien non, comme souvent au Parti Socialiste, l'unité n'est pas totale. Même si le chef de file du groupe à l'Assemblée tente de tenir ses troupes, Boris Vallot appelle chacun au respect du collectif, à suivre la ligne fixée et donc à ne pas censurer le gouvernement Lecornu. Mais la fronde s'annonce limitée. Selon plusieurs sources internes, seuls 3 à 5 députés socialistes comptent braver la consigne et voter la motion de censure des Insoumis.
En revanche, ça va se compliquer rapidement.
Oui, c'est pour ça, par exemple, que le député socialiste Paul Christophe choisit de voter la censure. Il estime que son parti s'est piégé tout seul parce que, selon lui, il n'y a que 2 scénarios. Soit la suspension de la réforme des retraites est vraiment appliquée, mais dans ce cas, il faudra valider tout le budget de la sécurité sociale et donc, dit-il, avaler beaucoup de couleuvres. Soit le texte comporte trop d'irritants et là, les socialistes seront contraints de s'y opposer. Et donc, on n'aura rien, conclut-il. D'autres PS sont plus optimistes, mais le parti veut assurer ses arrières. Des discussions sont en cours avec le gouvernement sur les modalités de cette suspension de la réforme Borne. Les socialistes plaident pour une loi spécifique pour dissocier ce dossier sensible du reste du projet de budget de la Sécu, ce qui ne serait pas possible avec un simple amendement. À cette heure, la question n'est pas tranchée, répond Matignon. Vous l'aurez compris, le feuilleton des retraites est loin d'avoir livré son dernier épisode.
Alors, autant les socialistes négocient, vous nous l'avez dit Sonia, avec le Premier ministre, un peu comme le Rassemblement National l'avait fait au fond l'an dernier avec Michel Barnier, autant cette fois le RN est décidé à faire tomber ce gouvernement. Bonjour Lise Rosveille.
Bonjour.
Ce ne sera sans doute pas pour demain, on l'a compris, mais le RN, moins en position de force en ce moment pour peser sur les décisions, il s'en défend.
Oui, le RN n'a pas de gain politique à brandir, mais pas question pour autant de jouer les spectateurs. Les députés comptent déposer de nombreux amendements, nous dit-on, pour faire du débat budgétaire une vitrine de leur programme, tenter de revenir sur l'année blanche, les hausses d'impôts. Participer donc activement au débat sur le budget, tout en répétant qu'il sera in fine adopté par ordonnance. La ligne est difficilement lisible. Même ambiguïté sur les retraites. Le RN censure un gouvernement qui vient de suspendre la réforme qu'il dénonce depuis 2 ans. Il faudra faire de la pédagogie auprès de nos électeurs, reconnaît un député, signe de la gêne. Le RN se retrouve en tout cas marginalisé. La preuve, lors de son discours hier, Sébastien Lecornu ne s'est pas embarrassé d'un mot sur la sécurité ou sur l'immigration pour tenter de flatter le RN.
Lise Rosveille et Sonia Gobry pour ces explications.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Le mouvement islamiste Hamas s'était engagé à rendre aux familles israéliennes les dépouilles des otages morts en captivité. 3 ont été restitués hier soir. Il s'agit d'un chauffeur de taxi tué le 7 octobre et 2 soldats israéliens tués dans des bombardements sur Gaza, selon le Forum des familles d'otages. Un 4e corps a été rendu hier soir par l'organisation terroriste, mais il ne correspond pas, nous dit l'armée israélienne, il ne correspond à aucun otage. Ce cessez-le-feu qui doit permettre aussi aux Palestiniens de Gaza d'accéder encore plus facilement à l'aide humanitaire. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Et à ce sujet, le point de passage de Rafah va rouvrir.
Oui, c'est la radio publique qui l'a annoncé. À l'aube, les camions de l'ONU, les camions des organisations internationales et du secteur privé devraient pouvoir passer. On attend encore les images. Jusqu'à présent, seulement 2 points de passage étaient praticables à l'est de l'enclave, 5 jours après le début du cessez-le-feu. L'entrée de l'aide humanitaire était donc 2 fois inférieure à ce que recevait Gaza avant la guerre. Rafah peut changer la donne. D'abord, cela multiplie les points d'entrée, comme ça avait été demandé hier fermement par l'ONU et la Croix-Rouge internationale. 600 camions devraient passer chaque jour. Ensuite, c'est une frontière. Elle donne côté égyptien. Cela peut permettre aussi d'évacuer les blessés et de faire passer les personnes volontaires dans les 2 sens. C'est aussi un test pour l'application du cessez-le-feu. L'aide humanitaire fait partie des points d'accord. Mais hier, les Israéliens ont menacé de réduire l'accès si le Hamas ne faisait pas plus d'efforts dans la restitution des corps. Les 4 corps rendus cette nuit ont donc visiblement débloqué les choses. Enfin, l'humanitaire devrait revenir entre les mains de l'ONU. Elle avait été dépossédée par une fondation qui avait été imposée par les Israéliens et Washington. Cette fondation devrait stopper son activité. L'ONU devrait reprendre la main avec un enjeu de quantité. 600 camions par jour, c'est à peine plus qu'avant la guerre.
Étienne Monin, le nouveau président syrien Ahmad al-Sharé est en Russie Aujourd'hui, l'homme qui a contraint Bachar al-Assad à l'exil, en Russie précisément. Première rencontre donc avec Vladimir Poutine, qui lui avait ouvert ses portes à l'ex-dictateur syrien. Le djihadiste devenu président va demander au président russe de livrer Bachar al-Assad à la Syrie. Choisir les dirigeants des autres pays du continent américain, c'est une vieille tradition de la diplomatie américaine et Donald Trump ne veut pas y déroger. Donald Trump qui, la nuit dernière, a adressé un message très clair aux Argentins à 10 jours des élections législatives. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Soit vous votez pour mon candidat, Javier Milei, soit vous dites adieu à notre aide en dollars.
Et en l'occurrence, un crédit de 20 milliards de dollars comme une bouée de sauvetage pour le pesos argentin qui n'en finit pas de perdre de la valeur, mais aussi pour Javier Milei lui-même, dont la cote de popularité bat de l'aile à l'approche de ses élections de mi-mandat. Les effets de sa politique d'austérité ultralibérale se font sentir. Alors, Donald Trump n'y va pas par quatre chemins pour soutenir Milei.
S'il gagne, on restera à ses côtés. Mais s'il perd, on s'en va. Je connais le gars qui se présente en face de lui. C'est un extrémiste de gauche, avec la même philosophie que celle qui a conduit l'Argentine dans la crise actuelle. Donc, si Milei perd, on ne sera pas généreux avec l'Argentine.
Voilà, une ingérence très idéologique dans le scrutin argentin. Ça confirme que la doctrine de non-interventionnisme, l'America First de Donald Trump, est à géométrie variable et surtout que les États-Unis n'ont pas renoncé à peser sur la politique de leur précaré sud-américain. Ces dernières décennies, ça passait plutôt par les prêts du FMI, conditionnés à des réformes libérales. Mais Donald Trump a un autre enjeu en tête aussi en Argentine, celui de contrer l'influence grandissante, cette fois de la Chine, qui a accordé 18 milliards de dollars de crédit au pays, alors que les Argentins avaient fait jurer à Javier Milei, je cite, de sortir les Chinois d'Argentine.
Camille Magnard, au Brésil, voisin de l'Argentine, c'est la réalité de la protection de la forêt amazonienne qui interroge. L'ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch, publie aujourd'hui une enquête selon laquelle des ranchs illégaux prospèrent dans des zones censées être sans élevage. Et ça se passe, Sandy Dauphin, dans l'état du Pará. C'est l'état qui va accueillir dans un mois la prochaine COP climat.
Oui, l'ONG a repéré des ranchs illégaux dans deux zones pourtant protégées de la forêt, dans une colonie de petits producteurs fondée il y a 20 ans par les autorités brésiliennes et aussi dans un territoire autochtone. L'enquête a examiné les permis de transport du bétail et elle démontre que dans 5 cas, ces ranchs illégaux ont vendu du bétail qui s'est ensuite retrouvé dans la filière classique de viande, notamment dans les abattoirs de JBS, le plus gros producteur de viande au monde. Pour Luciana Teles Chavez, l'une des porte-paroles de Human Rights Watch à Sao Paulo, c'est peut-être que la viande issue des ranchs illégaux peut potentiellement finir dans nos assiettes.
D'abord, on a identifié que ces ranchs illégaux, ils vendaient à des intermédiaires que, à leur fois, vendaient à JBS. Et à la fois, on a trouvé que ces abattoirs de JBS, ils exportaient de la viande à plusieurs pays européens, dont la France. Ils ont un système de traçabilité qui ne leur permet pas de voir l'ensemble des producteurs qui font partie de leur chaîne d'approvisionnement.
Alors, le géant brésilien JBS s'est engagé à renforcer la traçabilité de sa viande pour savoir exactement d'où elle provient. Ce sera à partir de janvier prochain. Et le gouvernement fédéral brésilien aussi promet la création d'un système national pour avoir plus de transparence. Ce sera d'ici 2032.
Et ce matin, l'ONU annonce une concentration record de CO2 dans l'atmosphère l'an dernier dans le monde. Cette concentration a connu sa plus forte hausse depuis le début des mesures en 1957. L'atmosphère n'a jamais été aussi chargé en CO2, pour le dire plus simplement, le CO2 responsable du réchauffement climatique. Les apiculteurs français satisfaits de la production 2025, entre 23 et 25 000 tonnes de miel, ce sera le double par rapport à l'année 2024, en raison notamment des conditions météo favorables au printemps dernier, mais aussi selon l'Union nationale des apiculteurs français, à une moindre utilisation des pesticides dans les champs. Il y a une augmentation de policiers ou de gendarmes sollicités par des trafiquants. Les mots du nouveau ministre de l'Intérieur. Ce matin, Laurent Nunez, chez nos confrères de France Info, ces mots sont alarmants. Alors Laurent Nunez précise qu'il y a peu de cas, mais bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
L'IGPN, la police des polices, va prendre des mesures.
Alors, avec une refonte totale des méthodes d'enquête face à la corruption, avec pour les affaires les plus graves, un usage des techniques spéciales d'enquête, jusqu'à l'infiltration de groupes criminels pour détecter une taupe. Et puis, puis également pour la consultation de fiches avec revente sur le dark web, un numéro de plaque d'immatriculation d'un délinquant, une fiche de personne recherchée. Le chef de l'IGPN, l'ancien procureur de Créteil, Stéphane Ardouin, a rappelé que ces fiches revendues pouvaient entraîner des règlements de comptes et des assassinats dans le milieu de la grande criminalité, d'où la création d'une mesure pour la détection suspecte de consultation informatique de fichiers.
Nous avons deux chantiers ouverts. Un chantier que j'appellerais la surveillance des fichiers, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est en effet un algorithme, une requête statistique qui permet de détecter, on va dire, des usages qui seraient anormaux au regard de ce qu'est un profil moyen d'emploi. Et puis nous avons un travail qui est plus local. Ça peut être la vérification sur une affaire, par exemple. Une affaire sensible, de stup, on regarde qui a consulté l'affaire.
Stéphane Ardouin a précisé que le nombre d'affaires graves d'atteinte à la probité a doublé en 5 ans entre corruption active et passive. C'est 33 affaires en 2020, 66 l'année dernière, ce qui reste marginal au regard du nombre d'agents. Mais à chaque fois, l'IGPN constate que ça touche de vrais points de vulnérabilité face notamment au narcotrafic.
Emmanuel Leclerc, à Tours, un procès s'est ouvert ce matin pour juger 4 hommes, dont 2 anciens gérants des restaurants Otakos de la ville. Ils sont soupçonnés d'avoir employé une 20aine de Bangladais en situation irrégulière et de les avoir entassés dans de petits appartements. C'était entre 2017 et 2019, Adrien Bossard.
Les Bangladais d'Otakos vont vivre un enfer à Tours. Un quotidien rythmé par un travail harassant, payé au SMIC. Les heures sup sont la règle en cuisine, 13 heures en moyenne chaque semaine et ne sont pas rémunérées. Les jours de repos, il n'y en a pas, c'est du 7 jours sur 7. Quant à l'hébergement, il est très précaire. 3 appartements de 60 mètres carrés pour 25 salariés avec des matelas un peu partout jusque dans la salle de bain. Ce qui fait tenir cette main-d'œuvre bon marché, recrutée en région parisienne, c'est cette promesse faite par les gérants, un titre de séjour pour tout le monde. Or, jamais les employeurs n'ont réellement l'intention d'aider à leur régularisation, car ils ne les déclarent pas à la préfecture. Les papiers, c'est du vent. Un jour, l'un des migrants tout juste licencié balance tout à l'inspection du travail, ce qui conduira à l'arrestation de 4 hommes et à la fermeture des 3 restaurants tourangeaux.
Précision ici, Touraine. Les enchères risquent de grimper autour de l'opérateur de téléphonie SFR. Il a refusé ce matin l'offre de rachat effectuée par le trio Bouygues Télécom, Free et Orange. C'est-à-dire ses 3 concurrents français. L'offre s'élevait à 17 milliards d'euros, mais selon nos informations, les négociations vont se poursuivre. Le cinéma.
Oh, capitaine, mon capitaine,
tu sautes, moi je saute, pas vrai.
Cours, Forest, cours.
Les sorties de ce mercredi et les conseils aussi d'Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
On commence avec The Chronology of Water, premier film réalisé par Kristen Stewart.
Un coup d'essai prometteur pour la moins consensuelle des actrices hollywoodiennes, la star de Twilight, qui s'est toujours rêvée cinéaste, adapte ici le livre autobiographique de Lydia Yuknavitch, récit d'une adolescence marquée par l'inceste et les addictions.
It was my voice who laughed.
Hey, look at me.
Ce film sur les violences sexuelles, mais aussi sur le pouvoir de l'écriture et parfois à la limite du cinéma expérimental, multipliant les tours de force visuels et sonores. Le fait que Kristen Stewart assume à 100% ce style surchargé, saturé, offre à son projet une belle cohérence et un mémorable portrait de femme, incarné par une comédienne qui monte, la britannique Imogen Poots.
Vous avez été moins convaincu par Deux pianos, le nouveau Desplechin.
Oui, ce mélodrame très cérébral sur une jeune femme qui peine à choisir entre ses 2 amants n'a pas su m'embarquer. Remarquez peut-être que Desplechin, vieillissant, s'assagit et finit par provoquer l'ennui.
Est-ce que t'as volé ça ? Attends, t'as volé une photo de mon fils ? Pourquoi tu montes ça maintenant ? Va-t'en !
La voix de Nadia Tereskevich qui donne dans ce film la réplique entre autres à François Civil et Charlotte Rampling, d'excellents comédiens bien sûr, mais pas toujours bien servis par des dialogues surécrits et surannés. Tout le sel, toute la folie des grandes œuvres de Desplechin sont ici gommées au profit d'un geste passéiste, pour ne pas dire réac.
Un film japonais a attiré votre attention Alexis, un film au joli titre, Lumière pâle sur les collines.
Will you tell me about your lives before in Nagasaki?
On l'entend, l'anglais et le japonais s'entremêlent dans ce film se déroulant à 2 époques et dans 2 pays. Dans les années 80, dans la campagne anglaise, Nikki s'attelle à l'écriture d'un livre sur sa mère Etsuko en l'interrogeant sur sa jeunesse au Japon. 35 ans plus tôt, à Nagasaki, Etsuko, enceinte, fait la connaissance de Sachiko, une jeune veuve qui élève seule sa fille au milieu des marais. C'est clairement dans cette seconde temporalité que le film tire sa puissance romanesque. Et si le traumatisme du bombardement atomique de Nagasaki reste hors champ, il plane comme un fantôme sur ce film touchant, subtil et résolument féminin.
Et puis à l'affiche, des films aussi pour enfants, les vacances approchent.
Ah ouais, ça n'a bien sûr pas échappé aux distributeurs qui sortent cette semaine deux films d'animation. Le premier s'appelle La vie de château, mon enfance à Versailles. C'est sur le deuil à hauteur d'enfant et c'est formidable. Quant au second, faisons les présentations avec ce court extrait.
Qu'est-ce que tu veux, Marcel ?
Je veux pas que tu écrives n'importe quoi sur nous. Parce que partout où tu es allé, je suis allé.
Marcel et Monsieur Pagnol, la vie et l'œuvre de l'auteur provençal dessiné et animé par le réalisateur des Triplettes de Belleville, le talentueux Sylvain Chaumet. Alors Jérôme, le résultat est peut-être un poil trop sage, mais que c'est réjouissant de se plonger dans l'intimité et l'imaginaire du très grand Marcel Pagnol.
Ma vie de château et Marcel et Monsieur Pagnol pour les enfants en salle aujourd'hui. Merci Alexis Demeyer. On va se permettre en ce jour des enfants sur France Inter, puisque nous sommes ici en public et avec des enfants avec nous, de rajouter deux conseils, ceux de Nora et ceux de Jeannette. Bonjour Nora.
Bonjour.
Quel âge as-tu ?
9 ans.
9 ans, qu'est-ce que tu voulais nous conseiller ? Qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a beaucoup plu ?
K-pop Demon Hunter.
Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas du tout.
C'est un film où il y a trois filles. Une fille où il y a... C'est la fille, son père c'est démon, où elle le cache. Puis après, il y a trois autres garçons qui viennent. Puis après, les deux autres filles découvrent ce secret.
C'est un manga ?
Non.
C'est pas un manga. Et tu l'as vu au cinéma ?
Non.
Non. Tu vas au cinéma ?
Oui.
Oui. Régulièrement ?
Non.
Non, pas régulièrement. T'aimerais y aller plus souvent ?
Oui.
Voilà, le message est passé pour les parents qui nous écoutent. Jeannette, juste à côté de toi. Bonjour Jeannette.
Bonjour.
Quel âge est-ce que tu as ?
9 ans.
Et toi, ton conseil ? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a plu récemment ?
Je voulais te parler de la même chose.
Ouais.
K-pop Demon Hunter.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu ?
J'ai aimé parce que de base son père c'était un démon, elle l'a caché et quand ses copines l'ont découvert, de base ils voulaient la tuer, mais après c'est bon, ils sont quand même redevenus copines.
C'est l'histoire d'un enfant qui protège son père, c'est ça en fait ?
Non, en fait c'est une fille qui a un père démon mais qui le cache.
Ah d'accord, ça se termine bien. Merci beaucoup d'avoir partagé ce choix. On va continuer à vous retrouver dans les prochaines minutes avec Gauvin Serres, qui est notre invité également, qui chantera en direct. Je voudrais juste qu'on parle, 13h27, c'est l'heure où l'on mange. Généralement, je ne sais pas si vous connaissez, les enfants, cette spécialité qui nous vient de Lyon, c'est le petit déjeuner à la lyonnaise. C'est hérité des canus et des tisseurs de soie du quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Au menu, cochonaille, c'est pour manger le matin hein, quand vous réveillez. Cochonaille, tripes, fromage, vin rouge, ça c'est pas pour les enfants. Et puis de franches discussions. Rituel typique à Lyon qui est à l'honneur toute cette semaine, c'est la Machon Week. Mathilde Imbertier était au service ce matin au restaurant Les Évadés, c'est dans le Vieux Lyon.
Julien Blachon, le patron des Évadés, s'est mis au travail plus tôt pour l'occasion.
Oui, beaucoup plus tôt. D'habitude, c'est à 10h. Et là, ce matin, on était là à 7h pour organiser. On a ouvert aux clients à 9h.
Qu'est-ce que vous allez apporter à table ?
Là, on amène la soupe à l'oignon du chef, croûtons maison à l'ail et un comté 18 mois d'affinage râpé dessus.
Bonjour, oui, en fait, on est une équipe du Québec qui sommes venus organiser un congrès. Et donc, les petits estomacs québécois vont découvrir ça ce matin.
Il est quand même tôt pour manger de la soupe à l'oignon ?
Il est très, très tôt. Mais en même temps, ils sont en décalage horaire. Donc, on misait un peu là-dessus. On va manger de la soupe à l'oignon, on va manger un tablier de sapeur, j'ai pas du tout trappeur, c'est au Québec ça.
Paris c'est la Fashion Week et à Lyon c'est la Machon Week, voilà c'est tout. Et ben moi je m'appelle Nadège Véricelle.
Donc auberge des Canus.
Et nous on fait quand même un machon par mois à l'auberge en dehors de la Machon Week. Ça a toujours existé en fait si vous préférez, mais c'est une tradition qui s'est perdue parce que c'était les Canus qui venaient machonner, commençaient à 5h du matin, ils descendaient à 9h en ville.
Les Canus, pour les non-lyonnais, les ouvriers de la soie.
Voilà, les ouvriers de la soie, c'est ça. C'est comme la mode, en fait, tout revient. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est difficile de faire déplacer des gens à 9h du matin et de leur mettre dans la tête, à 9h, t'arrives, tu vas boire un verre de Mâcon et tu vas attaquer le saucisson, quoi. Et puis, en fait, les gens se rendent compte que ça se fait.
Ça se fait, et plus particulièrement toute cette semaine à Lyon.
Le tablier de sapeur, évidemment. Mathilde Imbertie à Lyon, et bon appétit à tous. 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à partir de 13h30, les enfants au pouvoir. Donc vous l'avez compris, toute la journée sur Inter, ici en studio, mais aussi au 01 45 24 7000. Venez nous dire ce qui vous rend heureux, vous les enfants, vos petites et vos grandes joies. Vous dialoguerez avec le chanteur Gauvin Serre, s'il a écrit sur l'école. Il vient de sortir son dernier titre, il va nous l'interpréter en direct. Nous écouterons aussi la chanson de son enfance grâce à Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Et puis dans C'est la France, Patrice Trappier du 1 Hebdo parlera de l'actualité à notre jeune public. A tout de suite.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce jeudi, Feu Chatterton met l'ambiance directement dans votre salon.
Camille Diao.
Pour fêter la sortie de leur nouvel album Labyrinthe, Feu Chatterton vous offre un concert exceptionnel en direct et en public sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.
Feu Chatterton en concert.
C'est ce jeudi à 20h sur France Inter.
Chérie, il est 8h20, faut qu'on se bouge, on va être en retard.
Non, t'inquiète, j'enfile ma combi et je saute sur le premier tire-fesse qui passe.
Non mais Romain, on n'est plus chez Bellambra là.
On s'habitue vite à être proche de tout chez Bellambra. Avec nos clubs au pied des pistes, vous ne perdez pas une miette de glisse. Et en ce moment, le ski jusqu'à moins 20% sur bellambra.fr. Bellambra Club, au plus vrai des vacances.
Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi, je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société.
Demandez la brochure Legs Assurance Vie sur legs.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Nuageux au nord, plus ensoleillé au sud.
Et on va profiter d'avoir un peu de public pour faire un peu de pédagogie, puisque le pays reste sous l'influence d'un anticyclone
vous
qui
en
fige
tous les mercredis, mon cher Sébastien.
Effectivement, oui. Cet anticyclone nous protège des perturbations. On garde donc un temps plutôt sec, mais il a aussi tendance à piéger l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère. Cela se traduit par de nombreuses grisailles qui évoluent difficilement. Le ciel restera donc chargé entre la Normandie, les Hauts-de-France et le Grand Est. Quelques gouttes seront même possibles sur le Cotentin ou sur le Boulonnais, mais la couche nuageuse ne sera pas compacte, on peut quand même espérer quelques trouées entre l'Île-de-France et l'Alsace. En Auvergne-Rhône-Alpes, les grisailles seront aussi parfois tenaces, notamment entre la Haute-Loire, le Lyonnais et le Genevois. Et puis sur le reste du pays, l'après-midi sera plus ensoleillé, avec un ciel bien dégagé de la Bretagne à la Bourgogne, à la Garonne et à l'Occitanie. En revanche, le temps sera plus instable sur la Corse et la Provence, ainsi que sur les Pyrénées. Et quelques averses se développeront, averses qui seront plus nombreuses et qui pourront tourner à l'orage sur la façade orientale et le sud de la Corse. Et puis à part quelques degrés de moins dans le sud-ouest, les maximales restent stationnaires, plutôt proches des normales de saison. 14 degrés à Lyon, 16 degrés à Metz et à Lille, 17 degrés pour Paris, 18 degrés à Brest. On ira quand même jusqu'à 21 degrés à Bordeaux, 23 à Toulouse et Marseille et 24 à Ajaccio.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. De 13-14, Jérôme Cadet.
Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà la question que j'ai envie de vous poser à vous les enfants qui êtes avec nous aujourd'hui en ce jour très important pour nous à Radio France, mais aussi pour tous les enfants qui nous écoutaient, puisque Radio France regroupe depuis ce matin tous ses contenus jeunesse dans une radio, dans une nouvelle chaîne. Elle s'appelle Mon Petit France Inter. Elle est dédiée aux 6-12 ans et vous pouvez l'écouter n'importe quand sur l'application Radio France. Et pour ce baptême, pour cette occasion, nous avons décidé avec l'équipe du 13-14 de vous donner la parole. Ça vaut bien quelques applaudissements ici à la Maison de la Radio et de la Musique. En direct, on a fait connaissance avec quelques-uns de nos invités. Ils sont hilars, ça fait plaisir. Ali, Nora, Mazen, Khalil, Jana, Anaé et Janat. J'espère que je n'ai oublié personne. Merci d'être là. Vous venez de Paris, vous venez de Gennevilliers. Je salue également Pierre et Natacha qui sont vos enseignants et Nicolas qui est votre directeur. Merci également aux parents qui se sont dévoués pour vous accompagner. Merci également à Gauvin Cers. Bonjour Gauvin, merci Bonjour. D'être là. Avec nous, vous avez publié votre dernier titre vendredi, Montée à Paris. Vous nous l'interpréterez dans quelques minutes. Merci de nous accompagner pendant cette demi-heure, d'avoir accepté de jouer le jeu avec les enfants. Est-ce que vous écoutiez la radio quand vous étiez plus petit, oui. Gauvin Cers?
J'écoutais, en tout cas, j'écoutais celle que mes parents mettaient. J'ai le souvenir d'être dans le lit et d'entendre dans la salle de bain, justement, France Inter résonner. C'est assez réconfortant de repenser à ça. Et puis, on écoutait beaucoup, évidemment, dans la voiture. On faisait beaucoup de trajets parce que j'ai grandi dans la Creuse, donc sur les chemins de la campagne. Il y avait souvent la radio et beaucoup de musique. Je me souviens de Sous les étoiles exactement et de ce numéro de téléphone aussi du standard qu'on connaît par cœur sans l'avoir vraiment voulu.
01 45 24
7000. Voilà.
C'est quoi? C'est de l'imaginaire pour vous, pour un enfant? Qu'est-ce que ça peut représenter la radio?
Ouais, la radio, je sais pas, il y a une forme de, y a un truc un peu magique comme ça avec ces voix qui sont très belles, souvent très graves, et puis qui nous racontent plein de choses. Et ouais, c'est aussi une photographie du monde. Pour moi, la radio, c'est beaucoup de musique. Beaucoup de chansons, et ouais, beaucoup de souvenirs d'enfance. Je sais pas, il y a des gens comme ça dont on connaît pas vraiment les visages, mais leurs voix, on les entendrait, on les reconnaîtrait parmi des milliards. Je sais pas, les gens qui présentent la météo ou des gens comme ça, ou des commentateurs sportifs qu'on n'a jamais vus. Et ouais, c'est vraiment des souvenirs d'enfance qui me touchent beaucoup.
Vous venez d'avoir un petit garçon.
Oui.
Quel âge il a?
Il a 6 mois.
Mon petit France Inter, ça peut.
Peut-être
coller.
Pas tout de suite, je crois que c'est pour les 6-12 ans. Mais
après, on va faire pour les plus petits.
Mais ouais, ouais.
Et
ouais.
Vous lui faites écouter déjà.
Ouais, on lui fait écouter bien sûr déjà beaucoup de musique et puis d'histoires. On raconte beaucoup d'histoires aux enfants et ça éveille, je crois, leur imaginaire. Enfin, on voit qu'ils sont vraiment captivés par les voix, justement, les intonations, les personnages. Et c'est hyper beau à voir. Ouais.
Je vais vous laisser vous installer, Gauvin Cers. Ouais. Traverser ce studio 621 de la Maison de la Radio pour interpréter votre titre. Dans quelques minutes, je voudrais donner la parole aux enfants. Vous vous demandez qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui veut nous expliquer ce qui le rend heureux dans la vie? Vos petits bonheurs, qu'est-ce qui vous plaît dans votre journée? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne journée pour vous? Quand est-ce que ça s'est bien passé? Anaë, tu veux nous dire un petit mot? Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie?
Qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est quand je vois mes grands-parents, parce que je ne les vois pas souvent. Aussi, quand je suis à la campagne.
Qu'est-ce que tu aimes à la campagne, Anaë?
C'est pas pareil qu'à Gennevilliers. C'est plus ouvert, c'est plus grand. Les champs, ils sont très grands. Il y a beaucoup plus de nature. Et
donc, c'est bien.
Ouais.
Et tu es heureuse quand tu changes, quand tu vas de Gennevilliers à la campagne. T'es contente de revenir à Gennevilliers aussi?
Oui.
Il y a tes copains?
Oui.
Les copains, c'est important aussi?
Oui.
Ali, bonjour Ali.
Bonjour.
Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Tu es juste à côté d'Anaë. Et vous êtes super chic, les enfants. Vas-y.
Moi, Ali. Ce qui me fait très plaisir et ce qui me rend ultra heureux, c'est les vacances.
Donc là, t'es très heureux en fait, Ali.
Oui.
Si je comprends bien, les vacances, c'est pour bientôt. Pourquoi les vacances? Ça veut dire que t'aimes pas trop l'école?
Non, non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que je préfère les vacances à l'école, mais infiniment plus.
Qu'est-ce que tu aimes? Tes maîtres et maîtresses ne t'écoutent pas, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu préfères dans les vacances? Qu'est-ce que tu aimes dans les vacances?
J'aime quand je voyage.
Ah, tu vas où?
Au Maroc.
Ah, au Maroc. Parce que ta famille est originaire du Maroc? Parce que, ouais, ta famille est originaire du Maroc. Et qu'est-ce qui te plaît au Maroc?
Les piscines.
Ah, il y a des piscines au Maroc qu'il n'y a pas en France.
Oui.
Bon, les piscines marocaines sont meilleures. Je vous redonne la parole ici dans un instant. On est, je crois, avec Héloïse qui nous a appelé. Est-ce qu'elle est là, Héloïse?
Oui.
Bonjour, Héloïse. Tu es en sixième?
Oui.
D'où est-ce que tu nous appelles, Héloïse?
Du Rhône, de Boussieux.
Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie?
Moi, ce qui me rend heureuse, c'est ma famille, mes amis, jouer avec eux, discuter avec eux, manger avec eux, surtout manger.
Surtout manger.
Voilà.
Qu'est-ce que tu préfères manger, Héloïse? Quel est ton plat préféré?
Frites et cordon bleu.
Ah, frites et cordon bleu, ok. Je ne sais pas si le choix est validé ici. Est-ce que tu écoutes la radio, Héloïse?
Oui.
Qu'est-ce que tu écoutes à la radio? Des histoires?
Surtout le matin, parce que avant de partir au collège.
surtout le matin. C'est bien aussi le 13-14, hein, Héloïse, hein, faut nous écouter aussi. Mais tu as les infos grâce à la grande matinale. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que tu écoutes des podcasts aussi?
Oui, Salut l'Info.
Salut l'Info, ça c'est les copains de France Info qui font ça et c'est très bien. Merci beaucoup Héloïse d'avoir été avec nous, 01 45 24 7000 comme Héloïse. Un dernier petit bonheur avant de donner la parole à Gauvin Cerce. Vas-y, c'est Khalil. Oui. Bonjour Khalil, vas-y.
Bonjour.
On t'écoute.
Moi ce qui me rend heureux c'est de passer du temps avec ma famille et de voir mes amis, surtout Mohamed Amin, parce que c'est le plus gentil.
Et la dédicace est faite.
Oui. Et mes professeurs, parce que ils sont, même s'ils sont énervés, ils sont toujours patients.
Ah, voilà. Et ils sont énervés des fois ?
Des fois, mais.
Des fois, ils sont énervés. Bon, le message est passé. Et toi, tu es toujours calme ou tu es énervé aussi des fois ?
Non, je suis plus content.
T'es plus content, tu gardes ton calme. Merci Khalil d'avoir partagé cela. Je note que la famille revient beaucoup dans ce que vous nous dites et ça sera important, j'espère, pour tous ceux qui nous écoutent de pouvoir passer du temps en famille dans les semaines qui arrivent. Ce sont les vacances qui vont débuter. Gauvin Cerce est là, la guitare est prête. Gauvin Cerce, montez à Paris, l'antenne est à vous. On vous écoute.
Ok, c'est parti. Famille de classe moyenne, sympathisante chez Guevara, Dylan et Souchon dans la chaîne. Il y avait les guignols dans le salon et dans la cuisine quelques cris. Je faisais les 100 pas, mon fiston, alors je suis monté à Paris. J'avais pas vu tous les Godard et pas lu Shakespeare en anglais. Je trimballais juste ma vieille guitare dans les labyrinthes de Châtelet. On me disait que c'était pas mon nom. Mes rêves étaient hors de prix. Je voulais décrocher la Joconde, alors je suis monté à Paris. Remonter les manches, monter sur les planches, déballer ma vie et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Griffonner des vers, chanter mes colères, mes utopies et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Pas de cuillère d'argent dans la bouche, mais le stylo entre les dents. Il fallait à tout prix faire mouche pour clouer le bec des méprisants. C'était à l'école de la débrouille, dans les rues du Monopoly. On a surtout bouffé des nouilles quand on est monté à Paris. C'était pour chanter toutes les nuits que j'ai troqué mon code postal, que je planquerai jamais sous le tapis mes origines originales. Des fonctionnaires et des prolos, de ceux qui t'apprennent la vraie vie. Ils m'appellent tous le Parigot, depuis que je suis monté à Paris. Remonter les manches, monter sur les planches, déballer ma vie et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Griffonner des vers, chanter mes colères, mes utopies et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Tintin, Tintin, monter à Paris, tintin, 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 tintin. Je suis un gamin de la middle class qui a connu l'enfance sans écran. Mais comme j'étais le plus petit de la classe, j'avais des rêves un peu trop grands. Mais même après les disques d'or, ce qui me fait chialer aujourd'hui, c'est te raconter quand tu t'endors pourquoi je suis monté à Paris. Monter les manches, monter sur les planches, déballer ma vie et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Griffonner des vers, chanter mes colères, mes utopies et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris.
Bravo, merci infiniment Gauvin Cerce. Monter à Paris, c'est votre dernier titre que les enfants ont apprécié, mais qui leur a aussi donné des idées de questions pour vous, Gauvin. Juste un mot d'abord. Je crois que c'est en fredonnant, on parlait de votre petit bébé qui a 6 mois, c'est en lui chantant des chansons que vous avez eu l'idée peut-être de l'air.
Alors c'est même en racontant les histoires le soir, plutôt à force de lire en boucle le petit loup va au carnaval ou petit loup fait du camping. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant de raconter. J'ai eu envie d'improviser et de raconter l'histoire de ses parents. Et voilà, de pourquoi finalement il est né ici et qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi on en est là aujourd'hui.
D'où il vient et où il vit aujourd'hui.
Voilà, quelles sont ses racines quelque part. Et puis voilà, j'ai envie de me replonger aussi dans cette période de la post-adolescence où on part de chez soi, on est sur le quai de la gare avec une guitare sur le dos et des rêves plein la tête et on va dans la grande ville essayer de décrocher un petit peu la lune et essayer de toucher du doigt ses rêves, en tout cas quand on essaye de faire de la musique. Et voilà, c'était un peu cette épopée-là que je voulais lui raconter.
De la Creuse vers Paris, ça c'est pour le voyage. Voilà. Et la pochette, vous êtes devant un train, sur un train.
Voilà, sur un train.
Sur un train même carrément. Jana, tu as une question. Bonjour Jana.
Bonjour.
Tu as une question pour Gauvin Serres, on t'écoute.
Dites, comment avez-vous commencé la musique ?
Alors comment j'ai commencé la musique ? Je pense les premiers souvenirs, justement on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment dans la voiture, les souvenirs de beaucoup écouter de musique et vraiment de tomber amoureux des histoires qu'on me racontait de tous ces chanteurs-là. Et puis après un jour, j'ai commencé très tard, donc voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer la musique. Et j'ai commencé par écrire des textes et puis je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais pas aussi essayer de les accompagner à la guitare ? Et c'était vers 17-18 ans que j'ai commencé à gratouiller et à écrire mes propres chansons.
Ah oui, c'est assez tard finalement.
Ouais, c'est très tard, mais ouais.
Donc vous tous qui nous écoutez,
exactement,
voilà, le chemin peut débuter assez tard.
Bien sûr.
Lou, vas-y, bonjour.
Bonjour, j'aimerais savoir comment t'as fait pour être aussi connu, parce que sur Spotify, je me suis renseignée, t'as 143 221 auditeurs mensuels.
Ouh, elle a bossé.
Ah lui. Ouais, dis donc, il y a de la recherche là. C'était pas prévu hein, que je sois connu quand j'ai commencé la musique. En tout cas, c'est pas pour ça que j'avais commencé. Je voulais vraiment chanter mes chansons et je pensais les chanter dans des petits lieux quelque part toute ma vie. Mais voilà, j'ai eu plein de bonnes nouvelles qui se sont succédées à un moment donné. Je crois qu'il y a une bonne étoile qui était au-dessus de moi à cette période-là. Et voilà, il y a eu un coup de fil du chanteur Renaud qui a beaucoup changé le cours de ma carrière et qui m'a fait faire ses premières parties. Et puis après, j'ai sorti mon premier album, mon deuxième, mon troisième et puis et bientôt le quatrième.
Ali, c'est pour quand le quatrième ?
Ce sera pour le début de l'année prochaine.
Début 2026. Ali, une question pour Gauvin Serres dans ce 13-14.
Comment êtes-vous passé de ingénieur à chanteur ?
Ah, ça, c'est une bonne question.
Ah, il a bossé aussi.
Ouais. C'est une question peut-être qui ne fait pas plaisir à mes parents, je ne sais pas. Mais j'ai toujours aimé par contre les sciences quand j'étais à l'école. J'ai un papa professeur de mathématiques, donc forcément j'étais obligé d'aimer cette matière-là. Du coup j'ai fait des études dans ce sens-là et j'ai été jusqu'à l'école d'ingénieur. Et après quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, je ne me sentais pas forcément à ma place. Quand j'allais au boulot le matin, je pensais plutôt à écrire des chansons et comme en parallèle, je commençais à faire mes premiers concerts, et ben, un jour, je me suis dit, tiens, il faut quand même que j'essaye de vivre de cette passion-là, parce que sinon, ça va me ronger de l'intérieur et je vais le regretter plus tard. Et du coup, j'ai un petit peu abandonné la vie de bureau et j'ai commencé à faire beaucoup de concerts. Et puis finalement, je ne le regrette pas, parce que je suis très heureux de faire ce métier-là aujourd'hui.
Vous parlez beaucoup de l'actualité ouais, dans vos chansons, Gauvin Serres. On va en dire un mot dans un instant, juste après le regard de Patrice Trappier du 1 Hebdo. Bonjour Patrice.
Bonjour Jérôme.
Je parle d'actualité parce que justement, c'est la chronique que vous nous proposez aujourd'hui. Patrice, vous intéressez à l'actualité en essayant, c'est ce que vous avez fait ces derniers jours, quand je vous ai dit on va être avec des enfants aujourd'hui Patrice. Il faut faire quelque chose de différent d'habitude, vous m'avez dit pas de problème. Vous êtes mis dans la tête d'un enfant, qu'est-ce que ça donne ?
Ben, c'est pas évident de le faire. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je pense à quelqu'un que je connaissais bien, c'est mon jeune filleul qui vit à Marseille, Emilio, il a 15 ans. Vous allez me dire qu'il n'est plus tout à fait un enfant. C'est vrai, mais l'adolescence est une période curieuse. D'une heure à l'autre, on passe de l'enfance à l'âge adulte et inversement. Or, il se trouve que j'ai passé le week-end dernier avec Emilio et j'ai donc pu lui demander ce qui l'intéressait dans l'actualité.
Et de quel sujet avez-vous parlé ?
Évidemment, j'ai essayé de savoir ce qu'il pensait de la crise politique, mais il a pris un air un peu désabusé, comme à chaque fois qu'un sujet l'ennuie. Ça m'a un peu étonné, parce qu'il veut suivre plus tard un cursus de sciences politiques. Il a tout de même réfléchi quelques secondes, et il m'a demandé si je trouvais pas tout ça un peu ridicule, on dirait des histoires d'école maternelle, il a même ajouté de bac à sable, chamaillerie, enfantillage. J'ai eu beau expliquer à Emilio que ses problèmes venaient de la tripartition à l'Assemblée, que chaque bloc ne voulait rien céder aux deux autres, il a levé les yeux au ciel pour me faire comprendre qu'on pourrait peut-être parler de choses plus sérieuses. Oui, mais quoi ? La dette de la France ? Pas de succès. L'environnement, les questions climatiques, ses yeux se sont mis à briller. Est-ce que tu sais, m'a dit Emilio, que l'Égypte ancienne a subi des sécheresses terribles qui ont certainement accéléré la fin de l'âge de bronze ? Il faut préciser que depuis ses 6 ans, mon filleul est passionné par la civilisation des pharaons. Il lit absolument tout sur ce sujet. C'est difficile à dire. Et ce réchauffement, m'a-t-il expliqué, a empêché pendant plusieurs années les crues du Nil, qui permettaient des bonnes récoltes. Ça a provoqué des famines, des révoltes, des migrations. Tu ne crois pas que ça ressemble un peu à aujourd'hui, m'a demandé Emilio.
Vous avez avec lui évoqué d'autres sujets pendant le week-end.
Oui, je l'ai interrogé sur l'usage qu'il faisait de son téléphone portable et Emilio a été très surpris par ma question. Bon, j'envoie quelques messages, je téléphone, je me connecte sur Internet pour trouver des infos sur la série Star Trek. J'avais oublié qu'Emilio n'est inscrit sur aucun réseau social et que son seul jeu, il le pratique en vrai. Une version de Donjons et Dragons dans laquelle il tente avec des camarades de sauver un village menacé par des monstres et des cataclysmes. Mais au fait, m'a dit Emilio, tu savais qu'au Japon, une ville a limité l'utilisation du smartphone à 2 heures par jour, et pas seulement pour les jeunes, a-t-il insisté, même pour les adultes. Je me suis alors demandé s'il ne faudrait pas davantage tenir compte de la vie des jeunes dans la confection des lois. C'est la vocation du Parlement des enfants,
exact.
Qui existe depuis 1994. Chaque année, des classes de CM2 et de 6e font des propositions, dont certaines sont devenues des lois de la République, par exemple le maintien des liens entre frères et sœurs en cas de séparation des parents ou la détection des mauvais traitements. Cette année, le Parlement des enfants va plancher sur la protection des mineurs contre les dangers des réseaux sociaux. Je suis sûr qu'Emilio aimerait y participer. C'est dommage, il est déjà trop grand.
Merci Patrice Trappier. L'actualité vue par les enfants, vous avez réagi, vous êtes là depuis 13h, donc vous avez écouté toutes les infos du jour. Et Mazen, bonjour Mazen.
Bonjour.
Tout à l'heure, on a parlé de la déforestation au Brésil. Ça t'a fait réagir ?
En fait, les animaux et les arbres, c'est comme nous. Si tu tapes un arbre, c'est comme si quelqu'un te tapait. C'est la même douleur.
Toi, tu fais attention à la nature, aux arbres. C'est quelque chose qui te concerne ? Tu te sens concerné par ces sujets-là ?
Oui.
Tu sais nous dire pourquoi ?
Parce que, en fait, je ne sais pas comment expliquer.
D'accord. Mais en tout cas, ça t'intéresse beaucoup. Oui. Gauvin Serre, ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous, depuis longtemps. Il y a ça aussi dans vos chansons.
Ouais, bien sûr. Bah, je trouve ça hyper touchant de dire que quand on tape un arbre, c'est la même chose qu'on tape un être humain. Effectivement, c'est des êtres vivants. On le voit bien, les arbres. La guitare, par exemple, en est un exemple. Elle continue d'évoluer tout le temps. Et c'est tellement primordial. Ça nous dépasse tellement, quelque part, ce qui se passe sur cette planète. Et ça serait pas mal quand même d'essayer de la préserver, notamment quand on voit les générations futures juste à côté de nous. On se sent tellement responsable par rapport à ça. Et d'essayer de faire en sorte qu'ils aient un avenir... au moins aussi radieux que le nôtre, ça serait pas mal déjà.
La chanson qui vous a fait connaître, Gauvin Serre, c'est Les Oubliés, et le point de départ, c'est quand même une école.
Oui,
il y a
bien
beaucoup
sûr.
D'enfants avec nous aujourd'hui qui nous écoutent, c'est un directeur d'école qui vous écrit.
Exactement, ouais, c'est Jean-Luc Massalon, je le salue parce que c'est devenu un ami. Et il m'a écrit une lettre parce qu'il était venu à un de mes concerts. Il me parlait de la lutte pour essayer de sauver son école qui était en train de... Voilà, qui avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et son dernier recours, c'était de m'écrire, donc ça m'a un peu bouleversé. Et voilà, j'ai écrit cette chanson-là qui parle d'une fermeture d'école, mais l'abandon aussi des services publics au sens large. Et évidemment, la fermeture d'une école, c'est la fermeture de tout un village, c'est la fermeture de toute une âme. Et voilà, je crois que nos dirigeants, ceux qui ont le pouvoir d'appuyer sur certains boutons devrait rencontrer peut-être plus souvent les enfants pour voir que l'éducation, ça devrait être les piliers de notre société comme la culture et la santé. Et voilà, c'est le poumon d'une société, l'école. Et quand l'école va bien, on construit des bons êtres, des adultes voilà, qui s'épanouissent. C'est tellement important. Enfin, voilà, c'est important d'écrire pour moi cette chanson-là, en tout cas.
Pour grandir, il faut aussi des modèles. Vous nous avez parlé de Renaud il y a quelques instants, Gauvin Serre. On va parler d'un autre de vos modèles, peut-être référence musicale dans C'est une chanson avec Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jérôme.
Et vous avez rencontré Gauvin Serre pour lui demander C'est une chanson. Mais quelle chanson ?
Et quelle chanson écoutait-il quand il était enfant ? Sa réponse, Solar pleure, titre d'MC Solar, extrait de son album 5e As. Cet album, Gauvin Serre, a commencé à l'écouter à l'âge de 11 ans.
C'est le premier album surtout que j'achète avec mon argent de poche, que j'avais économisé, qui venait de l'argent des anniversaires, parfois des grands-parents, des choses comme ça. Et voilà, j'avais pu m'acheter cet album, je me souviens, dans les rues pavées de Limoges. Voilà, j'ai grandi dans la Creuse et on allait faire une virée familiale dans la ville à côté. Et voilà, j'avais acheté cet album, j'étais tout fier parce que c'était un style musical nouveau dans la famille. On écoutait beaucoup de chansons françaises, les grandes icônes de la musique. Mais moi, j'arrivais avec un album de rap. Et voilà, c'est un super souvenir. Je l'ai écouté des millions de fois. Évidemment, le CD en cristal est complètement explosé, mais je l'ai gardé comme on garde un petit trésor, quoi. Voilà, et on s'est croisé avec MC Solar plusieurs fois, et un jour j'ai ramené le CD et j'ai demandé de lui mettre un petit mot dessus, et maintenant il trône dans ma bibliothèque à la maison, et j'aime beaucoup le revoir parce que finalement, s'il n'y avait pas eu ce CD-là, il n'y en aurait peut-être pas eu plein d'autres après, et j'aurais peut-être pas fait ce métier.
Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il a écrit sur ce CD, MC Solar ?
Ouais, il m'a écrit « Amitié, force à toi Gauvin », un truc comme ça. Et ça m'avait touché aussi quand on s'est rencontrés, parce qu'il m'avait dit que j'étais un rappeur aujourd'hui, parce que mes textes étaient hyper longs.
Fuck la terre, si je meurs, voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Virer à coups de front, kick les faux qui viennent se recueillir. Je veux des fleurs et des gosses, que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi. Vous êtes les bienvenus, il y aura pas de parvenus, juste des gens de la rue. La presse people n'aura que des smicards et des sans-papiers, des costumes mal taillés, même si les mecs voulaient bien s'habiller. CJ, l'autre, lead arabe, initial MC, un petit qui a voulu que la vie d'autrui soit comme une poésie. Et surtout va pas croire qu'il y aura 10 000 filles. Je dis ça pour ma famille, je n'étais pas parti en vrille. On me jette de la terre, on dépose quelques fleurs. Seul, sous son sol pleureur, Solar pleure.
C'est en 2001 qu'est sorti ce morceau d'MC Solar, Frédéric.
Gauvin Serre venait de quitter l'école primaire et ce morceau, ce disque, ce rappeur, il les a tellement écoutés qu'il n'est pas impossible que ça ait eu des répercussions sur la musique qu'il fait aujourd'hui.
C'est vraiment un rappeur où il y a vraiment toujours un storytelling, notamment dans cette chanson-là que j'ai choisie, Solar pleure, avec vraiment un crescendo aussi dans les arrangements derrière. C'est des choses qui me parlent beaucoup. L'idée d'avoir une vraie évolution dans le titre et dans les paroles. Donc voilà, ça a peut-être influé ma manière d'écrire ce CD-là finalement.
Parce que des textes très longs.
Ouais, parce que beaucoup de choses à dire, l'envie de raconter des histoires. Et MC Solar, il y a énormément de couplets, il n'y a pas forcément de refrains aussi, et c'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc ouais, ça a marqué en tout cas inconsciemment ma plume d'après.
Quand vous aviez 11 ans et que vous avez acheté ce disque-là, le premier disque que vous achetez avec votre argent de poche, vous comprenez quoi de cette chanson ?
Ouais, c'est drôle parce que je pense que je comprenais absolument pas la portée du message qu'il y a derrière. En plus, c'est une chanson très poétique, avec beaucoup de métaphores, beaucoup d'images. Du point de vue d'un mort en plus, donc c'est pas une chanson pour enfants, quoi. Voilà, c'est pas une comptine. Mais je pense que même quand on comprend pas les paroles, quand on est gamin, je sais pas, il y a d'ailleurs quelque chose d'inconscient dans notre cerveau qui capte le message quand même, d'une manière ou d'une autre.
J'ai contrôlé les anges, pas de haine et pas d'ennemis. Sinon j'ai le canif et j'inaugure le meurtre au paradis. J'ai joué au maigrelet chaque fois qu'on m'a provoqué. Contemplatif ordonné, j'ai pardonné sans pardonner. Mais je n'étais pas un héros, juste un mec fait dans ses dos. Maintenant je suis une âme qui plane, perdue sans stylo.
Cette chanson-là, pour vous, elle est liée qu'à des souvenirs heureux ?
Ouais. Ouais, et puis c'est la chanson qui n'appartenait qu'à moi, quelque part, là, une des premières. C'est-à-dire, j'avais le petit baladeur CD avec le casque sur les oreilles et j'étais tellement fier d'avoir ce baladeur-là parce que c'était l'époque des premiers vraiment baladeurs. Et là, j'étais fier parce que je prenais un petit virage musical et je le partageais avec personne d'autre.
Ça veut dire que vous ne faisiez pas écouter ce disque ni à vos parents ni à vos frères ?
Non, j'ai pas le souvenir de l'avoir partagé. Et c'est vrai que ce CD-là, j'ai l'impression que les chansons d'MC Solar de 5e As, elles étaient qu'à moi, quoi.
Non, pourquoi moi, c'est une erreur. Garde-moi, je suis noble de cœur. Arrêtez la chaleur, je crache sur Belzébut, je garderai la foi. Et puis j'ai l'ubercute, pourquoi ce blâme, pourquoi ces flammes, pourquoi ce torréfacteur qui nous crame.
Solar pleure, MC Solar. C'était donc le choix de notre invité Gauvin Serse à votre micro, Frédéric Pommier. Je peux me permettre de jouer à C'est une chanson, avec
allons-y,
votre autorisation, Frédéric, avec Nora qui est avec nous. C'est une chanson. Quelle chanson pour toi, Nora?
Gims.
Ah, Gims. Laquelle?
Ciel.
Ah oui, alors ça, Ciel, ça cartonne beaucoup. J'entends beaucoup ça à la maison. Lou?
Louane, La pluie.
Voilà, deux, c'est une chanson. Peut-être des candidats pour vous, Frédéric Pommier.
Mais nous les recevons.
Dans quelques années, pour vous raconter leur histoire autour de cette chanson. Merci infiniment, Gauvin Serse. On peut vous applaudir encore une fois dans ce 13-14 des enfants aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Montez à Paris, le single est sorti vendredi. L'album arrive début 2026.
C'est ça.
Ça vous a donné envie de retourner dans les écoles? Je sais que vous y allez régulièrement.
Ouais, j'y vais souvent. J'y étais encore avant-hier, justement, avec l'UNICEF. Et c'est toujours hyper émouvant, ouais, de partager ce moment-là avec la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont toujours hyper enrichissants. Enfin, c'est enrichissant des deux côtés, je crois. Et c'est inspirant.
Merci d'avoir été là aujourd'hui. Mon petit France Inter sur l'application Radio France. Et puis Fabienne Sintès sera très heureuse de vous accueillir dans Le Téléphone Sonne ce soir. Vous les enfants qui nous écoutez, 01 45 24 7000.